Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à notre sixième étude concernant la guérison. Le thème sera le Christ et les malades. Mais tout d'abord, pour commencer cette étude, j'aimerais, avant vous dire quelque chose que j'ai reçu dans le cœur. Le Christ et les malades, il est donc de mon devoir, évidemment, de ne pas se faire hypnotiser. C'est une mode qui vient de plus en plus, même dans les hôpitaux, par des chirurgiens, etc., même chez les dentistes. Donc, je dois vous dire, et je l'ai reçu dans mon cœur, de vous le transmettre. Et se faire hypnotiser est quelque chose que tout véritable chrétien devrait éviter. Thomas Szasz, qui était un psychiatre de renommée et qui vit encore, qui connaît bien les idées de Freud et qui bien il est très au courant du fait de leur origine, eh bien il dit ceci: l'erreur première est la psychologie freudienne dans ce qu'elle a de pire. Et la seconde, c'est l'utilisation de l'hypnose. Dans le livre « Hypnosis and the Christian », l'hypnose et le chrétien, ils ont considéré que les nombreux problèmes inhérents à l'utilisation de l'hypnose est assez grave. Ils ont donc démontré que même si cette pratique est admise dans les cercles médicaux, elle nous vient de la sorcellerie et elle est toujours pratiquée par les sorciers et les guérisseurs. Le psychiatre et chercheur et Fuller et Torrey associent l'hypnose tout simplement à la sorcellerie. Ces techniques ont été utilisées depuis des milliers d'années par les sorciers et les chamans. Après avoir considéré le résultat de nos recherches, l'origine occulte de l'hypnose et les interdictions de la Bible qui la frappent, eh bien, nous en sommes arrivés à la conclusion que l'hypnose est carrément démoniaque et potentiellement dangereuse. Notre conclusion est la suivante. Étant donné qu'il y a tant de questions qui sont demeurées sans réponse concernant son utilité et qu'il y a de nombreux cas et des dangers potentiels, il ne faut pas l'oublier, rattachés à son utilisation, eh bien, chers amis, nous croyons qu'il est sage pour tous les chrétiens de simplement s'abstenir de se faire hypnotiser. Des écrits récents provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur des milieux psychiatriques indiquent que les concepts freudiens sont remis en question, pas seulement à cause de leur origine corrompue, mais aussi parce que leurs histoires ternies ne présagent rien de solide pour leur utilisation future. les idées majeures préconisées par Freud n'ont pas résisté à l'épreuve du temps, ni à l'examen minutieux des chercheurs. Le professeur Palotta nous fournit un parfait exemple de quelqu'un qui a combiné les faux raisonnements de Freud avec l'hypocrisie de l'hypnose. Et il tente de faire la synthèse des théories de Freud et de les fusionner avec les Saintes Écritures. Mais, cette alchimie, elle est complètement fausse et même, on peut dire, carrément diabolique. Chers amis, un piètre estime de soi demande évidemment un traitement psychologique afin de régler certains problèmes. Des pensées coupables exigent la confession, exigent la repentance, la restauration et la marche par la foi dans une relation d'amour avec Dieu à laquelle il a lui-même pourvu, et ceci par son Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix. Et nous suggérons d'aller voir dans les Saintes Écritures, et ceci afin de découvrir quel est notre besoin le plus grand et afin de trouver un antidote au mal de l'âme, plutôt que de tenter d'accorder une crédibilité scripturaire à des marottes psychologiques. Le plus grand besoin de l'humanité est Jésus-Christ lui-même et non simplement l'estime de soi. Voyez-vous, plutôt que d'être considéré comme une vertu, l'amour de soi est présenté dans les Saintes Écritures parmi les œuvres diaboliques de la chair. Du reste, saint Paul, il parle de l'amour de soi dans une perspective totalement opposée à celle qui est prônée de nos jours. La parole de Dieu nous avertit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs et, en plus, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres même, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je prends parfois des citations dans The Amplified Bible. Chers amis, cette prophétie de saint Paul, elle décrit admirablement bien, jusque dans les moindres détails, la culture occidentale du 21e siècle. N'importe quel observateur du tiers-monde qui regarde la télévision occidentale ne peut trouver une meilleure description du christianisme qui prévaut dans notre société que dans ce verset que nous venons d'avoir vu ou entendu. Et pire encore, chers amis, ce que l'apôtre Paul décrit déferle maintenant sur nos églises, alors que les chrétiens, on peut dire, compromettent leur foi à cause de la séduction du monde. On constate donc de plus en plus la tendance qu'ont les chrétiens à s'aimer beaucoup trop eux-mêmes et à aimer le plaisir beaucoup plus que les choses spirituelles, telles que la sainte parole de Dieu. Voyez-vous, les chrétiens d'aujourd'hui, ils cherchent à faire de la satisfaction leur religion à eux. Nous sommes bien plus occupés à nous réaliser pleinement qu'à essayer de plaire à Dieu. En résumé, la formule « beaucoup de confiance en toi » va t'aider et « peu de confiance en toi » va te nuire. Ça, c'est absolument pas biblique, bien que ça a l'air très humaniste, il est vrai. Pas plus qu'elle n'a été vérifiée par la recherche d'ailleurs. Il est triste que beaucoup de chefs de file et de psychologues chrétiens aient choisi de promouvoir à outrance l'estime de soi. L'épanouissement de soi, la réalisation de soi, l'amour de soi et toute la gamme des concepts dérivés du soi ne sont en somme que des multiples facettes du désir de l'homme d'être tout simplement comme Dieu qui a pris naissance dans le jardin d'Éden. Et ce mélange des Écritures saintes et de la psychologie ne fait que baptiser la chair dans l'eau bénite de sa sainte parole. Mais le message véhiculé est totalement faux. Les paroles de ce cantique l'expriment beaucoup mieux que n'importe quelle psychologie et ne pourraient faire mieux. Écoutez bien ces paroles. « Je n'apporte rien dans mes mains, mais simplement à ta croix je viens. » C'est pas merveilleux cela? Donc, je répète les paroles de ce fameux cantique ancien. Exprime beaucoup mieux que n'importe quel psychologue ne pourrait le faire. Et ces paroles sont, et je le répète, « Je n'apporte rien dans mes mains, mais simplement à ta croix je viens. » Rien de rien. Vous connaissez la personne qui a chanté cela. Voilà donc la vérité biblique et elle se présente bien mieux ainsi. Je ne suis pas une personne aimable. Je ne suis pas une personne digne. Je ne suis pas une personne pardonnable. Mais Christ, lui, il est mort pour moi. Alléluia. Donc la vie chrétienne devrait se focaliser sur la personne de Christ comme étant lui seul une personne aimable, estimable et celle qui pardonne. Contrairement à ce que prétend le professeur Harris, l'homme n'est pas accepté de Dieu de façon inconditionnelle, car selon la Sainte Bible, l'homme est sauvé, accepté seulement au moyen de la foi en Dieu et non au moyen de la foi en lui-même. Ce salut n'est pas accordé bon gré mal gré à chacun, mais il est plutôt offert à tous. Il y a seulement une façon de l'obtenir et c'est par l'intermédiaire du Fils de Dieu. Ça, c'est un enseignement des plus clairs de la parole de Dieu. Harris déplore probablement cet enseignement comme il déplore aussi les autres absolus proclamés dans les Saintes Écritures. Chers amis, la Sainte Bible, elle nous dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, et c'est pourquoi il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Saint Luc chapitre 4, verset 18. Vous avez entendu tant de paroles remarquables énoncées par des gens éminents que votre esprit est peut-être suffisamment édifié. D'autant plus que ces conférences devenaient plus d'une fois des prédications carrément. Et ça devrait quand même faire plaisir à plusieurs de remarquer que des médecins, des professeurs ne dédaignent pas de reconnaître que Dieu est une réalité. Arrivant à la fin de vos travaux, je me sens tout petit au milieu de vous, les savants, qui êtes vraiment, il faut bien le reconnaître, des savants. Et pardonnez-moi si je reprends parfois des termes déjà utilisés. Mon propos sera seulement d'être pour vous le pauvre porte-parole du Seigneur, d'orienter vos regards vers lui et de vous aider à mettre vos pas dans les siens. En écoutant le Christ selon saint Luc, définir son ministère et en voyant ce que nous en avons fait, je deviens perplexe. Car en effet, il y a un hiatus profond, il y a un abîme dans notre monde de la technique entre l'œuvre médicale et l'action de la communauté chrétienne. D'un côté, le corps médical, à part quelques belles exceptions, s'appuie uniquement sur les techniques et situe ses recherches tout à fait en dehors de la perspective de l'Évangile. Malheureusement, les chrétiens, dans leur majorité, démissionnent en tant que témoins de Jésus-Christ devant la maladie. Ils se déchargent eux aussi sur les techniques. Il y a tout un monde des malades abandonnés à eux-mêmes, à leur désespoir et à ses progrès matériels sans signification. Le malade chrétien, dans son angoisse, n'arrive plus à se situer vis-à-vis du Christ, son Seigneur. Il n'arrive plus à vraiment se situer vis-à-vis de son Seigneur. Il ne voit pas en quoi le Christ pourrait l'aider. Et le croyant qui se penche sur un malade, que ce croyant soit médecin ou infirmière ou simple visiteur ou pasteur, ne sait pas comment l'aider réellement au nom de Jésus-Christ. Alors, la grande question se pose, où est le Christ devant le malade? Qu'est-ce qu'il peut pour moi si je suis malade? Ou bien, qu'est-ce que je fais là, devant ce malade, moi qui suis témoin de Jésus-Christ? Dans cette situation, il nous faut réentendre le message de saint Luc. Saint Luc définissant le ministère du Messie tel que le prophète Ésaïe l'a annoncé et tel que Jésus-Christ l'a vécu. Et à partir de ce ministère, il faut tenter de redécouvrir le nôtre. Christ accomplit les paroles et les actes du Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le voilà enfin celui que les captifs ont attendu à Babylone au milieu des souffrances de l'exil. Leur libérateur est arrivé, mais il est clair qu'il ne s'agit pas d'une libération simplement d'ordre national. Voyez-vous, lorsque le Christ, selon saint Luc, reprend à son compte la prophétie, il l'élargit aux dimensions de son œuvre messianique. Il y voit toute son action future. Tout le contexte l'indique, saint Luc n'insère pas les récits au hasard, mais dans un ordre significatif du message qui doit retentir. Il rédige ses notes avec beaucoup de méthode. On dit qu'il était médecin. En tout cas, dans son évangile, cette prédication-programme de Jésus est précédée par le récit de la tentation est suivi de nombreuses guérisons, combat contre la puissance du mal et annonce du royaume de Dieu. Cette libération-là que le Christ entreprend est donc celle de tout l'être. Jésus-Christ se présente comme celui que Dieu envoie et désigne avec plein pouvoir pour délivrer l'homme de tout ce qui le tient captif, son propre aveuglement, sa révolte contre le Créateur, la souffrance des situations matérielles où il est enfermé, la maladie de son corps ou de son esprit. Jésus-Christ vient pour libérer l'homme de tout ce qui l'empêche d'être heureux, du bonheur, des béatitudes, c'est-à-dire d'être l'enfant qui vient dans la joie du Père. Je répète, Jésus-Christ vient en effet pour libérer l'homme de tout ce qui l'empêche d'être heureux, du bonheur, des béatitudes, c'est-à-dire tout simplement d'être l'enfant qui vient dans la joie du Père. Il vient pour rétablir cette joie dans l'homme, dans son corps et dans son esprit, et cette joie qui existe là où Dieu règne, là où sa volonté se fait. Ainsi, quand le Christ est là, et aussi par son Saint-Esprit, voyez simplement le livre des Actes des Apôtres, qui est la suite de l'évangile de saint Luc, il se produit des signes, vraiment des signes visibles du règne qui va venir. La guérison des malades, la communication de la foi, l'ouverture des portes des prisons sont quelques-uns de ces signes messianiques. Soyons donc très attentifs aux deux caractères majeurs de ces signes. Ils sont donnés aux pauvres et ils sont accompagnés par la prédication du royaume. Ils ne sont pas là pour faire simplement du spectaculaire. Ils sont là pour pointer vers le royaume. Ils sont là pour que les pauvres, les humbles, se lèvent et regardent vers le ciel avec espérance et reconnaissance, et qu'ils accueillent le règne qui vient. Puisqu'il en est ainsi, puisque telle est la mission du Christ, que ferons-nous, nous qui avons reçu l'Esprit Saint et qui sommes ses serviteurs et ses servantes? Comment annoncerons-nous le règne de Dieu? Oui, le ministère du Christ continue aujourd'hui par ses disciples que nous sommes. Et disons-le avec crainte et tremblement, pour avancer dans ce ministère, il faut nous rappeler qu'il est confié aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée pour eux et par eux. Les pauvres, ce sont les disciples, ce sont les humbles, ce sont les hommes et les femmes qui ont peu de pouvoir humain et peu d'argent et qui cherchent dans leur dépouillement tout simplement le secours de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui attendent le possible de Dieu et qui se proposent comme ouvrières de ce possible-là. Et c'est pourquoi notre première démarche sera de devenir ces pauvres que Dieu délivrera et à qui il fait grâce. Ce sera donc de nous tenir devant le Seigneur et de nous découvrir captifs, prisonniers du vieil homme, avec ses mauvaises habitudes de pensée et d'action, et son mauvais emploi du temps, et son refus de la sagesse de Dieu. Oui, ce sera de nous voir devant le Christ comme des malades, même si nous sommes médicalement bien portants, malades de tout ce qui fait obstacle en nous au règne de Dieu, et de laisser le Christ s'établir dans notre existence, et ceci pour nous guérir, et oui, pour nous guérir, nous faire grandir en nous l'être nouveau à l'image de Dieu. Alors, nous pourrons nous approcher des médicalement malades et pour leur dire enfin, mon cher frère, ma chère sœur, je suis avec toi. Je suis maintenant avec toi dans le même combat. Comme toi, j'ai été malade. Et comment? Oh là là! Mais je sais qui m'a guéri. Il faut chaque jour qu'il me guérisse et que sa force me vienne d'en haut. Cependant, notre ministère ne s'arrête pas là et il y a une seconde démarche qui doit suivre aussitôt, c'est l'assurance de la bonne nouvelle. Jésus-Christ est venu pour délivrer et pour guérir. Il est venu pour les malades et non pas pour les bien portants. Et c'est vrai au physique comme au métaphysique. Le Christ s'approche des malades dans un total amour. Il les voit pauvres, faibles et nus, attendant le secours du Père. Et c'est pourquoi il leur donne, par la guérison, le signe que Dieu règne. Oui, il les guérit pour signifier le royaume. Nous devons donc annoncer aux malades le pouvoir et l'amour du Christ. Nous devons les encourager à prier, à crier vers lui, à demander sur eux, sur leur corps et sur leur esprit, le règne de Dieu. Il y a là une parole qui est nécessaire, comme l'invitation à croire, souvent prononcée par Jésus-Christ avant de guérir un malade. Ce ne sont pas seulement des mots. Qui dira comment retentissent dans la solitude et l'angoisse de la chambre d'hôpital? Comment retentissent les mots lorsqu'ils sont pleins, lorsqu'ils sont vécus, priés, et tout chargé de la présence invisible du Messie. Quand Jésus-Christ est là par son Saint-Esprit, ce ne sont plus des mots, mais c'est une parole de Dieu. Elle peut donc réveiller le mourant. Elle peut changer le cœur de la maladie et communiquer carrément la vie. Oui, cette prédication aux malades est absolument indispensable et pleine de promesses. Et combien plus efficace si elle n'est pas seulement le fait d'un pasteur. On dit que le pasteur est payé pour ça. C'est son métier. Mais si c'est le fait d'un médecin, d'une infirmière, d'un simple visiteur qui témoigne de sa foi, alors cela devient une grâce de Dieu merveilleuse. Oui, qui dira le pouvoir des mots quand Jésus-Christ est là? Ne méprisons pas le message. Que toutes les techniques soient utilisées, soient mises en œuvre, bien sûr, mais il ne s'agit pas d'une machine cassée. Il s'agit d'un enfant de Dieu qui souffre, qui est prisonnier de tout ce qui paralyse dans son corps et dans son esprit la véritable joie de Dieu. Il faut donc réorienter tout son être, le recréer par la force qui vient de Dieu. Et pour cela, il faut qu'un autre, non pas trop bien portant, mais portant le Christ dans son cœur, dans sa vie, et peut-être aussi sur son visage, qu'il parle à ce malade, le rencontre, prie avec lui ce qu'il ne peut pas prier tout seul, et qu'il espère avec lui la guérison. La guérison, non pas pour un meilleur confort, ni pour son bien-être, mais comme le signe de l'amour et du règne du Christ dans sa vie. Chers frères et sœurs, le ministère du Christ, le ministère des pauvres nous est confié. Soyons donc humbles, soyons des hommes et des femmes que le Christ guérit et recrée toujours à nouveau. Et le Seigneur se servira de nous pour annoncer aux captifs la délivrance. J'en suis absolument certain. Chers amis, nous allons terminer maintenant tout simplement par la prière. Et j'ai reçu cette prière pour vous et j'aimerais vous dire de la prier avec moi comme si c'était vous qui priez maintenant. Essayons de faire cela. C'est la prière pour les malheureux. Alors dites simplement les mots suivants. Ô Seigneur, quand tu le désires, la vie est rallongée. Les malades vont mieux et le péché est effacé. Je t'implore, ô Seigneur, afin que tu me remarques à mon tour. Je mets mon espoir en toi. Libère-moi pour que mon corps affligé recouvre la santé et que mon cœur qui est blessé par les épreuves et les peines aille mieux avec un nouveau rayonnement. Je suis prêt à faire tes œuvres et à te suivre, à suivre tes commandements, ô mon Dieu, mon Père céleste. Et je fais cette requête avec tout mon amour. Pardonne mes péchés et écoute ma prière. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Il vous aime réellement. Et vous pouvez à tout instant venir vers lui, apporter vos problèmes, que ce soit des soucis, que ce soit la souffrance de la maladie. Vous pouvez venir à lui et les lui porter, les lui apporter et lui demander la guérison, de vous délivrer des souffrances, car il vous aime. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, pour encore des longues suites de ce genre d'études concernant la maladie et la guérison. Au revoir, mes très chers amis.